des logiciels à l'école, dans les entreprises, dans tous les services publics, dans la vie de tous les jours et pour tout le monde. Mais qui intervient en cas de panne et qui les met à jour et comment? Toutes ces questions, les élèves du dispositif Ulysse du collège Samuel Paty de Conflans-Sainte-Honorine se les sont posées. Florian Martin est venu y répondre.
Quand l'informatique rend l'école plus inclusive, le rôle du technicien de maintenance de logiciels est essentiel. Aujourd'hui, mes camarades et moi voulons découvrir votre métier au sein du dispositif Ulysse. Nous vous remercions d'avoir accepté de venir répondre à nos questions. Je vous laisse vous présenter.
Bonjour, merci de l'invitation. Je vais vous présenter mon métier. Moi, c'est Martin Florian. Je suis développeur. Alors, je suis dans une branche développeur web. Je vais vous expliquer que le monde du développement, il est assez large. On pourrait l'associer à un arbre. C'est-à-dire que le développement, c'est le tronc. Et ensuite, ces branches, c'est divers métiers qui en découlent. Moi, j'ai 45 ans. Je vis à Conflans depuis quelques années déjà. Et je travaille sur Paris dans une petite boîte qui s'appelle Atexo. Donc, j'expliquerai si ça vous intéresse ce que fait ma boîte. Donc, voilà.
En quoi consiste votre métier ?
Donc, moi, mon métier, comme je vous disais, je suis développeur. Je suis spécialisé en développement web, profil PHP, on va dire. Donc, c'est une technologie qui permet de développer des sites Internet. Donc, moi, je suis plus spécialisé en... S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, parce que je vais utiliser des termes un peu techniques, je vais essayer de les...
Comme PHP ?
PHP. C'est un langage, en fait. Donc, c'est un acronyme, bon, je ne le connais pas par cœur, parce que dans notre cursus, nous, on dit PHP, tout le monde comprend PHP, mais concrètement, c'est un langage machine, enfin, un langage qui est compréhensible par l'humain, qui permet d'écrire des lignes de code, et ensuite, la machine interprète, et ensuite, avec une machine d'exécution, ça va exécuter le code. Par exemple, je pourrais vous prendre le logiciel qui est Firefox, ici. C'est Firefox. Non, c'est Chrome. Chrome est un logiciel qui a été développé par la société Google, et qui c'est fait dans un autre langage que PHP, et qui permet d'exécuter des sites web. Donc moi, je développe une application en particulier, qui va être interprétée par le logiciel Chrome, par exemple.
Qu'est-ce qu'un logiciel d'informatique ?
On va retourner la question. Pour vous, c'est quoi un logiciel ? Si vous n'avez pas...
Un site web ?
Par exemple, oui. Alors, le site web, c'est une application un peu différente, mais ça reste un logiciel. Comme je disais, Chrome est un logiciel. Ce que vous installez sur vos téléphones, par exemple, WhatsApp, TikTok, etc., sont des logiciels. Un logiciel, en fait, c'est quoi ? C'est une application qui va être installée sur un système. Un téléphone, sur les voitures, sur les PC, sur divers systèmes. Après, les logiciels sont un peu catégorisés en divers catégories. Donc, on a les jeux vidéo, on a les systèmes d'exploitation, des antivirus, etc. Donc, c'est assez vaste, quoi.
Quelle est la différence entre le matériel informatique et le logiciel ?
Alors ça, c'est une question un peu difficile à répondre, parce que le matériel informatique, c'est des composants électroniques. Et moi, dans ma branche, je ne fais pas de matériel. Je ne conçois pas de matériel informatique. Moi, mon métier, à moi, il consiste à développer des logiciels qui vont être interprétés. Donc, il y a deux, en fait, dans l'informatique, il y a divers branches, comme je disais. Vous pouvez voir le développement, comme je disais, à un arbre, mais aussi la partie matérielle aussi à ses propres catégories, on va dire. Et donc, les personnes qui conçoivent des cartes mères, des cartes graphiques, disques durs, etc. C'est un autre métier. Moi, mon métier consiste seulement à développer un logiciel qui va être utilisé par l'ensemble de la population, etc. Donc moi, ici, moi, en tant que développeur PHP, par exemple, je développe une application qui va gérer des marchés publics. Donc le marché public, c'est assez vaste. Qu'est-ce que c'est un marché public ? C'est l'État, quand il a besoin, par exemple, de refaire la route, par exemple, ou refaire le collège, va faire un marché, et des sociétés vont y répondre. Ensuite, des agents de l'État, enfin de la mairie, etc., vont y répondre et enfin, vont analyser le marché et ils vont attribuer le marché à la société. Nous, on développe un logiciel pour gérer tout ça.
Pourquoi on confond toujours la maintenance de matériel et celle de logiciel informatique ?
Alors, oui, c'est une bonne question. Alors, comme je disais, la maintenance matérielle, c'est un autre métier. Les personnes qui vont s'occuper de changer un disque dur, de réparer le matériel, c'est un certain type de profil, en fait. Moi, de mon côté, la maintenance logicielle, elle est un peu particulière. Parce que nous, quand on fait de la maintenance informatique, que ce soit n'importe quel type de logiciel, il y a forcément des bugs, des anomalies. Donc quand une application fonctionne mal, quand vous jouez à un jeu vidéo par exemple, que vous tombez sur votre personnage qui reste bloqué dans un mur ou un truc comme ça, ça s'appelle un bug, c'est une anomalie. Donc des fois, les développeurs sont obligés de passer du temps à corriger ces anomalies. Donc moi, mon quotidien à moi, c'est de corriger les anomalies qu'il y a sur l'application. Je suis responsable de maintenance au niveau de ma boîte. Donc, tous les anomalies que remontent mes clients, je les corrige et après, derrière, ça part en production pour plus qu'ils ont le souci sur l'application.
Et en fait, quand nous, par exemple, on joue dans un jeu et qu'on bug, genre on n'arrive pas à bosser notre personnage, c'est-à-dire c'est le jeu, il est en bug ou... J'ai pas compris.
Alors, ok. En fait, il y a quand vous jouez, en fait, votre personnage qui est censé faire quelque chose de normal, c'est-à-dire avancer, il reste bloqué pour une raison, par exemple un mur invisible, et qu'il reste bloqué dans cette zone, on va dire. Ça, c'est concrètement une anomalie, c'est-à-dire que le logiciel fait quelque chose qu'il n'est pas censé faire. Donc, pour que vous compreniez ce qui se passe derrière, en fait. Le jeu a été codé avec un langage. Alors, la plupart des jeux vidéo sont codés avec des. C'est difficile de ne pas donner des termes techniques comme des frameworks ou des choses comme ça. En fait, il y a des briques logicielles que les grosses sociétés comme Ubisoft, je pense que Ubisoft, ça vous parle.
Un petit peu.
Ceux qui font. C'est quoi le jeu déjà ? Pas Minecraft ? Oui, c'est Minecraft. Ça doit parler, ça, c'est Minecraft. Mm. Non ? Oui. Donc, Minecraft, par exemple, qui est un jeu qui a été développé en Java. Java est un langage qui permet de développer des applications. Donc, moi, comme je vous dis, vous pouvez voir l'arbre, le développement comme un arbre. Et ces branches, en fait, il y a divers langages. On a du Java, du PHP, on a du HTML, du CSS, du Python. Et alors, aujourd'hui, avec l'IA, on a encore plus de choses. Donc, c'est assez vaste. Donc, par exemple, Minecraft, qui est développé en Java, quand vous jouez et que votre personnage passe à travers la brique, pour une raison X, Y, parce qu'il y a un bug, donc la brique est mal codée, il y a un trou dans la brique qui a été oublié. Donc, votre personnage se trompe, il se retrouve bloqué dans le décor. Donc, ça, c'est une anomalie. Donc, qu'est-ce que fait l'application ? Soit vous rechargez votre partie. Après, derrière, soit l'application elle a un système de reporting automatique de l'anomalie. Donc, il y a un mail ou une information qui est envoyée à la société pour en disant, bon, voilà, t'as...
Reporting ? C'est quoi le reporting ?
Reporting, c'est... un rapport de l'anomalie à la société. Il y a un rapport qui est envoyé à la société qui développe le logiciel. Et ensuite, eux, ils ont des stacks d'anomalies. Et au fur et à mesure, ils corrigent. Et après, derrière, quand vous relancez le jeu, à un certain moment, vous avez des mises à jour, des updates. Donc, c'est des corrections de fixes, de bugs, qui ont été faites.
En fait, des fois, ils nous font sortir de la partie, ils nous disent recommencer. Et des fois, ils mettent les serveurs et tout, ils ne sont pas à dispo, un truc comme ça.
Alors, oui, quand sur les jeux en ligne, comme un jeu qui va. Minecraft, on va rester sur du Minecraft. Parce que Minecraft, vous pouvez jouer soit en local, ou soit intégrer un serveur communautaire. Donc, et des fois, ces serveurs, ils ont besoin de maintenance. Donc, pour mettre à jour le logiciel, par exemple, le jeu, par exemple, où il y a des soucis techniques. Alors, du coup, ils ont besoin de les mettre hors ligne. Pardon, excusez-moi. Ils ont besoin de les mettre hors ligne pour pouvoir réussir à corriger les diverses anomalies. Ou alors, le serveur a subi une attaque. Donc, des pirates informatiques, ils ont dit... je vais aller les embêter, je vais attaquer leur serveur. Il y a différents moyens d'attaquer un serveur, des attaques DOS par exemple. Donc les attaques DOS, c'est le pirate envoie énormément de requêtes sur le serveur pour le faire tomber. Et quand le serveur est indispo, vous ne pouvez pas jouer et attendre que le serveur soit à nouveau opérationnel pour pouvoir réintégrer le serveur et continuer votre partie.
Quel diplôme et formation pour faire votre métier ?
Alors, pour faire mon métier, pour les plus courageux d'entre vous, c'est juste du courage et de la volonté pour pouvoir y arriver. Il y a des jeunes qui ont votre âge, qui ont développé des jeux vidéo, et qui gagnent de l'argent avec ça. Donc c'est possible, n'importe qui d'entre vous peut devenir développeur. Ensuite, c'est pas évident d'être autodidacte, c'est pas évident. Donc moi j'ai un BTS en informatique de gestion. Je crois que de nos jours ce BTS n'existe plus. Il a été remanié. À l'époque, moi le BTS informatique, il était en 2 ans. La deuxième année, tu choisis une spécialisation. Donc moi j'ai choisi option développeur, mais il y avait aussi une option réseau. Parce que les personnes qui voulaient faire du réseau, de la maintenance, serveur, etc. Moi, je voulais faire du développement. Et ensuite, j'ai intégré le monde... j'ai voulu faire une licence, mais je suis sorti de l'école un peu tard, parce que j'ai eu pas mal de difficultés au niveau scolaire. Hein. J'ai redoublé beaucoup de fois. Mais je me suis accroché pour pouvoir réussir à sortir la tête de l'eau. Donc à la fin, j'ai réussi à avoir un BTS, à trouver un métier. Et là, ça fait 19 ans que je travaille. Je n'ai jamais été au chômage, donc pour l'instant, je touche.
Il faut passer par un bac pro, bac général ?
Non, n'importe quel bac. Après, le BTS, de nos jours, je pense qu'il est insuffisant. Il faut aller sur une licence, donc un bac plus 3, pour pouvoir y accéder. Enfin, avoir plus de chances de trouver du travail. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de passer par un BTS. Il y a aussi des écoles spécialisées, comme Epitech, etc. Mais bon, c'est des écoles qui sont payantes, assez onéreuses. Les personnes qui font ces écoles-là, généralement, ils en ressortent. Ils trouvent facilement du travail. Quoi.
J'ai une question. Ça veut dire quoi, autodidacte ?
Autodidacte ? Autodidacte, c'est une personne qui apprend par soi-même. Par exemple, tu souhaites comprendre comment marche, un jeu vidéo. Je reprends le système de jeu vidéo. Tu veux développer ton propre jeu vidéo. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, du coup, tu vas aller sur Internet, tu vas commencer à chercher des tutoriels, des vidéos d'apprentissage, etc. Donc, tu vas commencer à te documenter. Et au fur et à mesure que tu vas te documenter, tu vas commencer à installer divers logiciels pour pouvoir commencer à créer tes propres outils, enfin tes propres briques de jeux vidéo. Et au fur et à mesure que tu vas faire ça, tu vas apprendre à développer un jeu vidéo. Et sans passer par par une école, ou par un professeur, ou par des cours particuliers, etc. Donc c'est ça l'autodidacte, c'est que tu apprends par toi-même. Donc nous, dans le système, dans notre métier, même si on sort de l'école, il faut rester aussi à la page. Voilà, nous, on appelle ça de faire de la veille technologique, donc c'est-à-dire que jamais rester sur ses acquis, toujours regarder ce qui se fait, parce que les langages, les technologies avancent tellement vite, surtout avec l'IA de nos jours. Notre métier est en train de fortement évoluer et changer.
Quelles sont tes qualités et compétences techniques pour faire ce métier ?
Donc, les qualités, les compétences techniques, déjà, curiosité, parce qu'il faut toujours, comme je disais, faire de la veille technologie, donc il faut toujours être curieux d'aller se renseigner, se former, pas rester sur ses acquis. Les compétences techniques, avoir une... l'anglais en fait partie. Même si ce n'est pas l'anglais littéraire, on vous demande. Enfin, moi, dans mon métier, je sais que je suis une bille en anglais, hein, mais ça ne m'empêche pas de comprendre des documents techniques. Donc, avoir un minimum de connaissances en anglais, ça aide. Ensuite, avoir une certaine logique, parce que quand on écrit du programme, en fait, c'est de l'algorithme qu'on écrit. Donc, un algorithme, c'est quoi ? C'est un programme qui va suivre une certaine logique. Donc, par exemple, pour vous donner un peu de contexte de ce que c'est qu'on développe du code, c'est on va écrire des choses qui vont faire du style, on va rester sur les jeux vidéo. Je veux programmer une fonctionnalité qui va compter les munitions d'un chargeur, par exemple. Donc, on va créer ce qu'on appelle des méthodes. Une méthode, c'est une partie de code qui va être cloisonnée dans une partie du logiciel et qui va prendre des arguments, par exemple. Un argument, c'est des instructions que la méthode prend en entrée. Par exemple, get charger, c'est prendre en entrée un argument le nombre de munitions, et derrière, ça va calculer si combien de munitions il reste dans le chargeur. Donc au fur et à mesure que la personne, le logiciel va tirer, il va appeler cette méthode et elle va décrémenter le nombre de munitions dans le chargeur.
À quel âge avez-vous eu envie de faire ce métier ?
Alors, moi, j'ai voulu faire développeur. J'ai un cursus, j'ai fait un bac génie électronique. Au début, j'étais parti sur tout ce qui était composants, etc. Donc, tout ce qui était électronique. Et lors de ce cursus, j'ai développé... c'est un autre système de développement. Un microprocesseur. Donc, du coup, je devais écrire du code. C'était plus du code machine pour programmer ce contrôleur. Et pour qu'il fasse des choses en particulier, par exemple, là, c'était pour un siège de 406. Donc, quand on appuyait sur le bouton, ça devait lever le siège. Quand tu le relevais, ça devait le descendre. Et je devais programmer le contrôleur pour qu'il comprenne ses cheminements. Et le fait d'avoir développé ce mini-programme, ça m'a donné envie. Puis aussi, il y a aussi la cercle familiale. Hein, mon grand frère est aussi développeur. Donc, du coup, aussi... J'avais déjà un pied un peu dans ce cursus. Donc, du coup, je suis parti sur le BTS informatique de gestion pour pouvoir faire ce. Et du coup, à quel âge sachant que j'avais pris pas mal de retard déjà. 17-18, donc je devais avoir 20-21 ans dans ces eaux-là. J'avais déjà 2 ou 3 ans de retard.
À quel âge avez-vous commencé à travailler ?
J'ai commencé à travailler en 2007. Bon, je suis de 81. Et donc, comme je l'ai dit, hein, j'ai eu un cursus scolaire assez compliqué. J'ai redoublé plein de fois, j'ai changé de filiale avant de passer mon bac. Ce qu'il faut dire, c'est que malgré les échecs, je me suis accroché. J'ai eu ma mère aussi qui m'a beaucoup poussé. Donc j'ai tenu le coup, j'ai été jusqu'au BTS. J'avais quand même pas mal d'années, j'étais beaucoup plus vieux que mes collègues, mes camarades. Mais je tenais le coup et à la fin je suis sorti. Là, à l'heure actuelle, j'ai une très bonne situation. Donc il ne faut pas se dévaloriser, il faut s'accrocher. Avec de la volonté, on arrive à faire tout.
Comment avez-vous fait pour avoir ce poste? Avez-vous passé des tests ou des entretiens?
Question un peu pas simple parce que ce n'est pas mon premier poste là où je suis. C'est mon quatrième poste. C'est-à-dire que quand j'ai commencé dans la vie active, j'ai cherché un poste. Donc j'ai pris un premier poste et je travaillais à Saint-Quentin-en-Yvelines dans une petite société. Et je suis resté 7 ans. Ensuite, suite à une divergence avec mes supérieurs, je suis parti. Ensuite, j'ai rejoint une société qui s'appelle une SS2I. Donc une SS2I, dans le milieu informatique, c'est ce qui est, pour des jeunes qui débutent, c'est très prometteur parce que les SS2I sont des sociétés de prestation de services. C'est-à-dire qu'une société vous engage et vous met sur des missions chez des clients. Et là, vous pouvez voir divers domaines de métier, on va dire. Parce que vous pouvez travailler dans la banque, vous pouvez travailler pour l'audiovisuel, vous pouvez travailler pour le milieu pharmaceutique, etc. Donc, ça dépend de la mission que va vous proposer la SS2I. Et vous pouvez voir beaucoup de choses. Donc, c'est très formateur parce que vous pouvez travailler sur divers systèmes. Et après, moi, j'ai travaillé dans une petite start-up. Je ne suis pas resté longtemps. Et là, aujourd'hui, ça fait, ce mois-ci, ça fait 8 ans que je suis dans la même boîte, chez Atexo, où je développe, où je maintiens un logiciel. Bien sûr, quand on change de poste, à chaque fois, j'ai dû passer des tests, des entretiens, des tests techniques. Parce que, bien sûr, les entreprises, quand ils vous recrutent, vous arrivez avec un certain demande de salaire. Et avant qu'ils vous disent oui, parce qu'ils ne voient que votre CV, donc ils ne savent pas de quoi vous êtes capable, donc ils vous mettent à l'épreuve. Donc ils vous donnent des tests techniques à réaliser chez vous, vous passez divers entretiens, donc vous passez un premier entretien avec la responsable RH, des ressources humaines. Ensuite, vous voyez l'expert technique, il vous pose diverses questions pour évaluer vos connaissances techniques. Ensuite, il vous donne des tests à passer. Donc, du coup, les tests, qu'est-ce que c'est? Souvent, c'est du code à écrire, des écritures de tests, parce que le code, c'est bien beau d'écrire, mais il y a aussi une partie de notre métier, c'est d'écrire du code pour tester notre code. Donc, donc c'est un peu plus... c'est assez vaste. Et quand tout le monde a réussi à passer tout ça, à la fin, on est recruté. Bon, après, on a une période d'essai de 4 à 8 mois, et... on est intégral.
Ça veut dire quoi, start-up?
Start-up? Donc, c'est une micro-entreprise qui vient d'être créée et qui va faire des levées de fonds. Donc, elle va chercher des investisseurs, hein, c'est ça. Elle va chercher des investisseurs qui vont investir dans le projet à laquelle la start-up souhaite investir. Donc souvent, une start-up se concentre sur un logiciel et ensuite commence à développer ce logiciel, fait des démos à des investisseurs. Donc les investisseurs, ce sont des banques, des grosses sociétés qui sont intéressées d'investir dans d'autres petites sociétés. Et ensuite, quand les fonds ils sont assez conséquents pour que la société puisse vivre sans passer par ces fonds, par ces levées de fonds, ça devient une société standard, une PME, etc., etc. Une PME, c'est une petite moyenne entreprise. Et après, derrière, si la société grandit, elle devient aussi grosse que Google.
Mais du coup, vous travaillez dans les ordinateurs et réseaux, du coup, ça?
Alors, Moi, oui, je travaille au niveau de l'informatique, je travaille forcément au niveau de l'ordinateur. Je travaille aussi au niveau du réseau, parce que moi, j'ai on va dire que mon expérience me permet de faire des choses qu'un développeur junior ne ferait pas. Donc moi, je suis capable d'aller sur les serveurs, manipuler les serveurs, faire de la maintenance sur un serveur. En soi, un développeur, c'est pas son domaine de compétence, hein, on va dire, parce qu'on a des ingénieurs réseau qui sont spécialisés. Dans une société, il y a souvent d'informatique, il y a souvent le pôle développement, R&D, ce qu'on appelle recherche et développement, et le pôle exploitation. Donc l'exploitation, c'est les personnes qui vont s'occuper de la maintenance des serveurs. Donc un développeur ne va pas s'occuper de la maintenance des serveurs, et un exploitant ne va pas faire du développement informatique. Donc voilà. Mais moi, j'ai une double casquette, comme je suis responsable de maintenance. Donc moi, je peux intervenir en cas d'incident sur les serveurs pour pouvoir toucher au logiciel qui est implémenté pour corriger une anomalie à chaud sur la machine. Parce que normalement, voilà, faut que je vous explique un peu quelque chose au niveau des logiciels. Il y a différents types de logiciels. Il y a des logiciels compilés, on va dire. Comme par exemple LibreOffice, c'est un logiciel compilé. C'est-à-dire que les développeurs, quand ils développent ce logiciel, à la fin, ils le compilent. Et ça nous donne un exécutable. Donc souvent, les logiciels que vous téléchargez, vous avez sur Windows, vous téléchargez un setup, .exe ou autre extension, et quand vous le lancez, vous avez une barre d'installation, etc. Bon, dans Steam, on ne voit plus trop ça, parce que c'est dans Steam que le logiciel s'installe, mais normalement, c'est ça. Moi, dans mon domaine, je n'ai pas la phase compilation. C'est-à-dire que moi, j'écris du code, il est directement interprétable par une machine. Donc moi, j'ai juste à déployer le code sur la machine, et ensuite, on a un logiciel qui interprète ce code à la volée. Donc moi, l'avantage que j'ai par rapport à mes collègues qui développent sur Java, sur Python, des choses comme ça, bah, j'ai pas besoin. Alors Python, c'est autre chose parce qu'on peut l'exécuter à la volée, mais j'ai pas besoin de passer par cette étape-là. Et quand je veux quand je veux corriger un code à la volée, je vais sur la machine et je corrige direct.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Cela vous plaît ?
Pourquoi j'ai choisi ce métier ? Bon, j'ai un peu répondu à cette question-là sur une question précédente. C'est quand j'ai fait mon bac génie électronique, j'ai commencé à faire du développement à un autre niveau. Et du coup, j'ai voulu m'orienter vers ce métier. Après, est-ce que ça me plaît ? Je pense que depuis 19 ans que je fais du développement, je pense que si ça ne me plaisait pas, j'aurais déjà changé de filière, je pense.
Avec votre expérience, que pouvez-vous faire d'autre ?
Alors, avec mon expérience, je suis un peu cloisonné dans la branche informatique. Malheureusement, je ne pourrais pas devenir chirurgien ou un autre métier. Mais mon expérience me permet d'accéder à d'autres postes au milieu de l'informatique. C'est-à-dire qu'un développeur junior, quand il commence à prendre de l'expérience, à devenir senior, il commence à accéder à d'autres métiers qui sont liés à l'informatique. Donc généralement, un développeur commence développeur. Après, il commence à avoir plus de responsabilités. Et ensuite, il commence à passer sur des métiers. C'est pas des métiers, c'est. Comment je pourrais appeler ça ? C'est une amélioration de son poste en passant lead dev. Donc, lead dev, c'est un leader. Hein. C'est lui qui va diriger une équipe. Donc, parce que quand on est développeur, on est sous quelqu'un. Et ensuite, il y a quelqu'un qui nous dirige au-dessus. Et ensuite, avec l'expérience, on peut diriger les juniors, les seniors. Et ensuite, au fur et à mesure des années, il y a possibilité d'évoluer assez haut dans la hiérarchie et devenir, par exemple, CTO, c'est-à-dire C'est une personne qui va gérer tout le pôle informatique.
Quelles sont les difficultés pour réparer les logiciels ?
Alors, pour réparer le logiciel, les difficultés, c'est pas déjà, c'est d'identifier l'anomalie. Souvent, dans mon expérience, un utilisateur qui me remonte une anomalie, j'ai pas forcément le scénario de reproduction. Parce que des fois, quand vous jouez aux jeux vidéo, les bugs, c'est pas systématiquement. Vous allez à un endroit, vous tombez sur un bug, vous rechargez l'autre partie. Étrangement, ce bug ne se reproduit pas. C'est un peu des bugs aléatoires, on va dire. Donc là, moi, c'est pareil. C'est dans mon métier, j'ai mes utilisateurs qui utilisent le logiciel pour lequel ma société développe. Des fois, ils rencontrent des soucis. Et du coup, nous, notre support, on a un support hotline. Quand vous avez un souci, l'utilisateur appelle la société, il dit « bon voilà, j'arrive pas à faire ceci, j'arrive pas à faire cela ». Et du coup, notre support, lui, crée des tickets d'anomalie qu'ils arrivent chez moi et moi, je les regarde. Et après, derrière, si j'ai le scénario de reproduction, j'ai le logiciel sur ma machine. Donc du coup, j'essaie de reproduire l'anomalie. Si j'arrive à reproduire l'anomalie, je corrige. Je trouve le bug qui est défectueux et je le corrige, je le mets sur la version. Et après, derrière, ça partira en production. Quand on fait la version.
Est-ce que certains logiciels sont plus compliqués que d'autres ?
Alors oui, il y a... ça dépend de l'ampleur du logiciel en fait. Par exemple, pour développer un système d'exploitation, c'est beaucoup plus difficile que de développer un site internet par exemple. Ça demande beaucoup plus de ressources, c'est un peu plus compliqué. Donc oui, ça dépend l'utilisation du, enfin l'évolution que vous souhaitez, enfin que le logiciel souhaite mettre en place. Développer un jeu vidéo, ce n'est pas simple non plus. Ça demande plusieurs cordes de métier parce que ça demande un infographiste, ça demande des développeurs spécialisés dans certaines technologies. On a besoin de musiciens. S'il y a des voix, il faut des doubleurs. Donc il y a plein de... Développer un jeu vidéo, c'est assez difficile. Après, il y a des personnes qui développent des jeux vidéo indépendants, qui sont tout seuls, qui font tout eux-mêmes. Donc c'est pas simple, ils y arrivent, et ça fait forcément des jeux qui peuvent être... qu'on a l'impression qu'ils sont pas achevés, ou qui sont moins bons, mais d'autres sont plutôt de très bonne qualité, etc.
Qui fabrique les logiciels ?
Alors, qui fabrique le logiciel ? Les développeurs, moi et mes collègues. Une société a une idée, par exemple, créer un nouveau jeu vidéo. La société va engager un certain nombre de développeurs, ou en interne, une équipe dédiée. Donc, propose le projet aux personnes responsables, parce que une équipe de développeurs ne fait pas tout seul. Parce qu'il faut voir que dans l'informatique, on a plein d'équipes en fait. On a la R&D, ce qu'ils appellent la recherche et développement, on a l'exploitation. Mais derrière, un projet pour qu'il prenne vie, on a d'autres équipes à côté. On a l'équipe produit par exemple. Et l'équipe produit va définir ce que doit faire le produit. Voilà, le jeu vidéo, par exemple. Donc, du coup, on va avoir des personnes qui sont adéquates pour pouvoir écrire des spécifications du style le jeu vidéo, il doit faire ceci, ce jeu vidéo, il doit faire cela. On va faire un open world, on fait du FPS, ou je sais pas. Il y a beaucoup de specs techniques qui devraient être écrites. Et ensuite, ces specs techniques sont envoyés au pôle R&D. Eux, ils les lisent et eux, ils intègrent, ils font le développement de ce qui a été demandé. Après, tout est à charge du développeur et quand ça bug, c'est de la faute des développeurs.
Comment expliquez-vous un problème technique à une personne non spécialiste ?
Alors, pour expliquer un problème technique, alors tout dépend le problème technique, mais pour mon métier, à moi, généralement, je prends mon logiciel, je lui montre l'anomalie par exemple qui se produit, du style, imaginons, je travaille sur un jeu vidéo, je reproduis systématiquement l'anomalie, je lui montre l'anomalie, et ensuite, si la personne est curieuse, je lui montre au niveau du code où ça peut, où le problème se provoque, et je peux lui montrer comment corriger l'anomalie, etc. Bon, moi, je ne suis pas dans les jeux vidéo, mais c'est à peu près le même, c'est la même logique partout, quoi.
Que faites-vous pour enlever les hackers ou les pirates informatiques ?
Alors, les hackers et les pirates informatiques, encore une fois, ça reste du développement un peu spécifique, c'est-à-dire dans la sécurité. Moi, je m'occupe du logiciel, donc du coup, à la différence de certains logiciels où il pourrait avoir des virus qui s'installent dans le logiciel, nous, notre logiciel, il est hébergé sur des serveurs. Et à part une intrusion sur le serveur qui allait modifier notre code, je n'ai pas réellement d'intervention pour gérer tout ce qui est piratage, etc. Donc, s'il y a une intrusion sur notre serveur, ça va être plutôt l'équipe d'exploitation qui va gérer cette crise et bloquer le hacker et corriger tout ce qu'il aurait pu nuire sur le serveur, quoi. Et s'il a corrompu le logiciel, corrompu les sources de notre logiciel, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rollback, c'est-à-dire qu'on va restaurer le code source avant modification. Donc nous, on a des versions. Notre produit évolue au fur et à mesure du temps. On a des patchs, des fixes qui sortent, donc des versions numérotées. Et du coup, le produit avait été déployé avec telle version, on va redéployer la version, donc le code source, il va être supprimé, on va remettre le code source propre. Et après, si c'est la base de données qui est impactée, pareil, on va restaurer la base de données, etc. etc.
Quelles sont vos obligations professionnelles ? Horaires, tenues, délais ?
Alors, mes obligations professionnelles, déjà, de faire mes heures. Alors, moi, je suis cadre, donc 39 heures à faire dans la semaine. Je n'ai pas d'horaire fixe en fait. Je suis au forfait jour, on appelle ça forfait jour. Et c'est-à-dire que ma société est ouverte de 8h à 18h, 19h, 20h, 22h, ça dépend ce qu'il y a à faire. Donc du coup, moi je peux travailler de 8h jusqu'à 20h par exemple, ou de 8h jusqu'à 16h. Après, on a un cadre de faire ces 9h dans la journée. Et voilà, donc grosso modo, je fais à peu près une quarantaine, 45 heures dans la semaine. La tenue, alors développeur, nous, les tenues, je suis comme ça tous les jours, quoi. Donc pratiquement, donc, à part quand il y a des clients, donc là, ça sera plus chemise, ou quand je donne des formations, parce que oui, ça m'arrive aussi de donner des formations, je vous mets des chemises. Et les délais, on va avoir des jalons, on va dire. C'est-à-dire la version, on a décidé de faire une version évolutive et de la livrer. Par exemple, là, à l'heure actuelle, si je vous prends mon cas actuel, nous sommes en train de faire une version évolutive qui va être livrée dans les deux prochaines semaines. Donc du coup, on a un certain nombre d'évolutions à finir et tester, etc. avant la fin des deux semaines.
Et du coup, si j'ai bien compris, vous travaillez dans des boutiques, c'est ça ? Ou c'est chez vous ?
Non, pas du tout. En fait, j'ai ma société qui se trouve à Paris, pas loin de Saint-Lazare. Et du coup, on a des locaux. On arrive dans les locaux et nous, on a tous des PC portables. On s'installe un poste libre parce qu'on n'a pas de poste, on n'a pas de bureau attitré en fait. Donc on appelle ça du free office. Et du coup, moi, j'allume mon PC et puis je commence à travailler. Donc, je développe, je corrige. Alors, moi, comme je fais de la maintenance, je corrige les anomalies. Donc, je regarde mon Kanban d'anomalies. Je prends un ticket, je regarde l'anomalie et je essaye de le reproduire sur le logiciel. Quand je reproduis l'anomalie, je le corrige. Je commit. C'est-à-dire que nous, on versionne notre source, donc on met sur un serveur le code qui est comme ça versionné, et comme ça, si on a besoin de revenir en arrière, on peut revenir en arrière.
Il faut être bon en quelle matière pour ce métier ?
Alors, Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'anglais est un peu capital, on va dire, parce que même s'il y a des sources en français, que les systèmes, l'IA permet de traduire les documentations en français, l'anglais, ça aide beaucoup. Et dans les fiches de poste, souvent, ils demandent l'anglais technique recommandé, sinon, c'est éliminatoire. Parce que les documentations sont souvent rédigées en anglais, etc. Donc, ensuite, les compétences, la logique, les maths, mais en fait, pour moi, c'est que de la logique, en fait. Le développement, tous les langages, ils se ressemblent. Ils ont tous la même logique. C'est-à-dire qu'un programme écrit en Java et en PHP, ils suivent une même structure. Il va y avoir les mêmes logiques, la même construction qui vont être faites. C'est juste le langage qui va différer. C'est-à-dire que Java et le PHP, on peut écrire une certaine instruction, ça va différer. Mais sinon, ça reste toujours la même logique. C'est-à-dire que tu vas avoir des si, tu vas avoir des tant que, tu vas avoir des boucles, tu vas avoir des méthodes. Alors là, j'ai parlé un peu de technique, tu vas avoir des classes et divers modèles, on va dire. Qui vont s'implémenter, quoi. Et puis après, derrière, tu vas avoir des frameworks. Alors, les frameworks sont des outils qui permettent de développer beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire, c'est des briques logicielles qui te permettent de ne pas réinventer la roue. Par exemple, dans notre milieu, nous, on utilise un framework qui s'appelle Symfony. Il te donne des briques logicielles pour, par exemple, un système de connexion à un site. Tu as déjà cette brique-là déjà tout fait. Tu n'as pas besoin de le recoder, de le réinventer. Pareil, la gestion de la base de données, tu as des outils qui permettent de gérer directement la base de données, etc.
Comment fait la différence avec un logiciel fait par vous et un logiciel de l'IA,
Alors, la différence entre un logiciel fait par moi et l'IA, c'est que l'IA, on va voir le logiciel, il est quand même assez structuré, il va y avoir pas mal de commentaires. Et le logiciel forcément fait par l'IA, ne va pas forcément marcher du premier coup. Et qu'un logiciel fait par un humain, il va prendre plus de temps, il sera peut-être un peu moins documenté, il sera peut-être un peu moins joli au niveau du code, mais il a plus de chances de fonctionner du premier coup. Mais après, derrière, avec l'IA, même s'il ne fonctionne pas du premier coup, on repasse un petit coup d'IA pour dire, bon, là, ici, ça ne marche pas, que, vas-y, corrige-moi ça, il va corriger. Et en quelques boucles d'itération avec de l'IA, le site, il va fonctionner.
Est-ce qu'il faut être fort en maths pour développer la logique?
Pour les maths, les maths, ça permet de développer la logique. Mais le développement, c'est que de la logique. On fait rarement de calculs. Enfin, il y a des calculs, mais on fait rarement. En fait, la plupart du temps, c'est qu'on développe, on réfléchit à ce que doit faire la machine pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Donc ça va être plus de la logique, comme je disais, si j'appuie sur la flèche de ma manette vers le haut, mon personnage va avancer. Donc du coup, je vais construire du code qui va dire, voilà, détecte-moi quand j'appuie sur le bouton, que tu déplaces le personnage à l'écran.
Comment gérez-vous les utilisateurs stressés ou mécontents?
Un développeur a rarement affaire aux utilisateurs. Rarement, je dis. Un développeur qui va avoir affaire à un utilisateur, c'est souvent dans les petites structures, mais dans les grosses sociétés, le développeur, il ne voit jamais le client, jamais l'utilisateur. L'utilisateur, c'est généralement le client. Dans mon métier, je peux intervenir, avoir un client. Ça m'est arrivé hier. Hier, le client a fait une méga boulette, a supprimé 69 comptes. Donc, il y avait 69 utilisateurs qui ne pouvaient plus se connecter au système, au logiciel. Du coup, on m'a demandé d'intervenir. Donc, du coup, j'ai fait une visioconférence avec le client, avec aussi un chef de projet qui gère le client. Et du coup, je suis intervenu, j'ai débloqué la situation pour que les 69 utilisateurs puissent à nouveau se reconnecter. Donc, l'objectif, c'est de les rassurer en leur disant, bon, les données ne sont pas perdues, on va pouvoir les restaurer, on est en train de faire le nécessaire, etc. Donc du coup, on les rassure. Alors, déjà en leur disant, bon voilà, pas de panique, c'est pas perdu, on va pouvoir rattraper la boulette que vous avez fait. Ou s'il y a eu un dysfonctionnement, vous inquiétez pas, on a des sauvegardes, on va pouvoir restaurer, on va pouvoir corriger ça assez rapidement, etc. On va pouvoir déployer ce soir un correctif, des choses comme ça. Donc du coup, on les rassure dans cela. Mais après, la plupart du temps, quand on a des services qui gèrent le client, c'est eux qui s'en occupent de gérer on appelle ça des crises, les crises en leur disant, bon, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Et on communique régulièrement avec le client afin de le rassurer et lui donner un état de la situation, les situations réelles.
Faites-vous beaucoup de déplacements ?
Moi, non. Le développeur, généralement, il est cloisonné devant sa machine et il développe sur sa machine. Donc, à part cas exceptionnel ou des formations à donner ou à recevoir, les déplacements, non, il n'y a pas, nous, on n'en fait pas.
Est-ce que vous travaillez la nuit ?
Alors, non. Alors, je dis non, je mets des guillemets. mais comme je l'ai dit tout à l'heure, mes horaires types, c'est moi, j'arrive entre 8h, 8h30. Et je pars souvent à 18h, avec une heure de déjeuner sur la journée. Ça, c'est ma journée type. Mais il se peut que quand il y a une méga crise, quand il y a un gros dysfonctionnement, et qu'on me demande de faire des heures sup, des heures supplémentaires, je peux dépasser et du coup travailler un peu plus tard. Donc, par exemple, je vous dis, il y a 4 semaines, on a eu une grosse crise. J'ai commencé ma journée à 8h, j'ai fini ma journée à 23h. J'ai même pas mangé le midi, donc j'ai fait des non-stop.
Selon vous, ce métier est-il difficile ?
Alors, il n'y a pas vraiment de difficulté dans le métier. Quand on est passionné, on apprécie de travailler. Après, on peut avoir des difficultés à une évolution compliquée à faire, donc du coup, ça va être difficile à coder, à trouver la bonne logique pour pouvoir faire l'évolution. Le bug, il peut y avoir des difficultés à comprendre le bug, parce que si le bug, il n'est pas qualifié, c'est-à-dire que la personne qui a rentré l'anomalie ne nous a pas donné un scénario de reproduction, donc du coup, on est un peu en train de creuser, et du coup, on perd du temps, et oui, les difficultés sont plus là, en fait. Après, écrire du code, c'est pas ce qui est plus...
Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier ?
Alors, les avantages et les inconvénients, ça c'est une bonne question, c'est pas simple à y répondre. Les avantages, on est bien payé. on est sur des métiers font partie des métiers les mieux payés, on va dire. Surtout quand on commence à prendre des responsabilités. Donc là, on va sur des salaires assez élevés. Après, les inconvénients, en fait, c'est des fois, on a des soucis, des gros problèmes, parce qu'il y a une anomalie qu'on n'avait pas anticipée, et là, on devient sur des crises, et bon, voilà, c'est le gros problème de développeur, c'est qu'on n'aime pas les imprévus. Donc, et quand il y a un gros imprévu qui arrive, c'est un gros problème, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment d'inconvénient, en fait, dans ce métier, mais je dirais le gros inconvénient dans mon métier, c'est les imprévus, on va dire.
Est-ce que vos revenus sont suffisants pour vivre ?
Comme j'ai dit juste avant, on fait partie des... on a la chance qu'on a de l'expérience, hein, parce que quand on est junior... c'est pas non plus on vit bien hein, mais on gagne mieux que le SMIC hein, donc mais quand on commence à avoir de l'expérience, quand on commence à avoir 5-6 ans d'expérience, là on va sur des salaires assez très convenables, on va dire, et oui, franchement, on vit assez bien, quoi.
Est-ce que vous avez accès à nos données personnelles?
Alors j'ai accès aux données personnelles des clients, c'est-à-dire que les clients qui utilisent notre système, notre logiciel, je peux me connecter aux bases de données pour pouvoir aller lire des données. En théorie, normalement, on évite, parce que c'est quand même des données confidentielles. mais je peux me connecter sur les plateformes de production pour pouvoir aller lire les données personnelles. Donc du coup, je peux voir quelle agence est connectée à tel jour, quelles sont un peu les actions qu'il a effectuées, l'entreprise qui a fait un dépôt, tout développeur a accès aux données personnelles. Certaines boîtes, par contre, ne le font pas. C'est-à-dire que le développeur n'a pas accès aux données personnelles. Ça dépend de la politique de la société. Moi, dans la mienne, on n'a pas trop cette politique de restriction. Et surtout, moi, en étant responsable de la maintenance, je dois avoir accès aux données pour pouvoir analyser, comprendre le dysfonctionnement.
Est-ce que l'IA a changé votre façon de travailler ?
Alors ça oui. Ça, c'est depuis l'arrivée de l'IA, ça impacte énormément notre métier. Avant, on développait sans l'IA. C'est-à-dire qu'on cherchait quelque chose, etc. On allait sur des sites un peu spécialisés, on posait nos questions. Il y avait d'autres développeurs qui répondaient aux questions, donc on utilisait les réseaux sociaux pour pouvoir trouver une information. Maintenant, avec l'IA, ces outils-là commencent à disparaître parce qu'il n'y a plus personne qui va dessus. On le pose directement aux questions à l'IA, à ChatGPT, etc. Et du coup, on produit un peu plus vite. Et là, à l'heure actuelle, ce que je dis, c'est que maintenant, l'IA est capable de développer des logiciels et des systèmes d'exploitation à lui seul. On lui donne des informations, on lui dit « tu dois me faire ça » et il est capable de développer tout de A à Z.
Oui, mais des fois, l'IA dit des trucs faux.
Oui, alors ça, c'est selon le contexte que tu vas lui donner. En fait, l'IA, à certains moments, va fabuler, on va dire. C'est-à-dire que, en fait, t'as une session. Quand tu discutes avec un agent IA, elle a une session. C'est-à-dire que tu as démarré une conversation avec lui, et au fur et à mesure que tu lui donnes des instructions, elle commence un peu à perdre des pédales, on va dire, et elle commence à te dire un peu n'importe quoi. C'est pour ça qu'il est bon, des fois, de restarter sa session, et surtout d'être précis dans la question. Parce que plus tu seras précis dans une question, plus la réponse sera vraie, en fait, on va dire.
Est-ce que c'est vous choisissez, par exemple, des fois, quand vous êtes en vacances, d'arrêter le travail, d'être en congé ?
Alors oui, c'est moi qui choisis mes jours de congé. Comme aujourd'hui, par exemple, je posais ma journée. J'ai déjà posé mes vacances d'été, par exemple. En mois de janvier, j'avais déjà posé mes vacances d'été. Mes collègues, ils n'ont pas encore posé, rien du tout. Mais les sociétés ont souvent des petites règles. L'été, ils obligent les collaborateurs à poser au minimum deux semaines. Parce qu'en fait, on a tous 25, dans le milieu du travail, on a tous 25 jours de congé. Et après, derrière, il y a des RTT, etc. Donc, je sais que la personne qui est venue en a déjà parlé. Donc voilà, moi, j'ai à peu près une trentaine de jours par an de vacances. Donc du coup, je peux les planifier un peu comme je le souhaite. Et comme je suis tout seul à la maintenance, je n'ai pas de roulement d'équipe à faire. Donc du coup...
Qu'est-ce que vous nous dites pour nous convaincre de faire votre métier ?
En fait, la question est simple. Est-ce que vous avez envie de développer des choses ? Est-ce que l'orientation de développer un jeu, par exemple, ou un logiciel, un site web ? En fait, la question, c'est si ça vous dit de partir sur du développement et apprendre ce métier, c'est la question que vous devez plutôt vous poser, parce que en soi, moi, mon métier, tous les jours, je suis passionné. Hein, donc, je m'amuse à développer des nouvelles fonctionnalités et apprendre des nouvelles choses. Mais après, c'est une question de passion et d'orientation, on va dire. Le problème, c'est comme je vous dis, avec l'IA, ça a impacté énormément l'arrivée des juniors sur le marché. Quoi.
Par rapport à l'IA, est-ce que ça peut vous impacter par le licenciement ?
Malheureusement, oui. Alors, on va dire que depuis l'arrivée de l'IA qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur, on a des sociétés qui commencent à réduire leur effectif de salariés. Par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé de SS2I, c'est des sociétés de services. Une très très grosse société a licencié 2500 développeurs. Parce qu'ils l'ont remplacé par l'IA. Et malheureusement, l'IA ne fait pas que du bien, en fait, à notre métier. Parce que comme elle est capable de faire ce que fait des développeurs, bien sûr, il faut que ça soit cadré. Donc, du coup, il y a cet effet-là qui... les sociétés se disent, bon, l'IA fait l'affaire de 3 ou 4 juniors, donc du coup, on va pas prendre des juniors. Mais après, sur le long terme, on ne sait pas ce que ça...
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de nous avoir expliqué votre métier. Grâce à vous, nous comprenons mieux le travail de technicien de maintenance de logiciels informatiques.
Merci. De rien, ça fait un plaisir. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux y répondre et s'il y a besoin de plus d'informations.